Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Et oui, 6h07 sur RMC, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver Véronique Verdin et ça fait plaisir aussi de vous retrouver tout simplement comme chaque samedi et dimanche sur RMC en direct pour votre week-end des experts. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que ce week-end s'annonce plutôt sympathique. On fera un point d'ailleurs météo toutes les demi-heures, même météo des plages tout à l'heure, ça sera avec Claire Navarro. Au menu de votre week-end des experts, vous le savez, demain dimanche, de quoi je me mêle 6-7 après 3 heures d'auto avec Jean-Luc Moreau. Tout à l'heure, avec Raphaël Grablier, entre 9h et 10h dans notre rendez-vous Vie Numérique, on essaiera de comprendre, de décrypter la maison connectée. Vous savez que la maison connectée, c'est génial, ça permet de faire des choses incroyables, d'automatiser certaines fonctions qui nous rendent la vie plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion un petit peu de complexité. On va essayer de vous expliquer tout ça tout à l'heure avec nos invités. Vraiment de bons experts dans ce domaine. La santé avec Christian Ricard. On fera encore un point sur cette épidémie tout à l'heure. On évoquera aussi les produits de saison à consommer sans modération et on aura en renfort un certain Patrick Mulan. Vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter dans un instant, ne vous inquiétez pas. La maison, là ça sera dans une heure avec Christian PC. Le bricolage, la maison, la déco, comment bien choisir son entreprise pour rénover sa maison. Et on vous donnera aussi quelques conseils pour entretenir votre climatisation avant les fortes chaleurs. Ça peut servir. Et puis bien sûr, vous le savez, en fil rouge pour tous nos rendez-vous avec tous nos experts, le 32-16, le standard RMC et bien sûr l'appli RMC Direct Studio pour nous laisser un message. Vous voulez nous poser une question avec en plus votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous rappeler. On commence avec le jardin et c'est Patrick Mulan, bien sûr, qui est là. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue dans nos jardins qui sont plutôt bien.
Oui, ils sont bien, bah, ils sont verts. C'est vrai que la météo, en tout cas, dans la région parisienne, est plutôt clémente pour l'instant. On ne sait pas trop ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Vous nous direz tout ça dans la météo du jardinier ?
Oui, ça ne bouge pas énormément.
Ça bouge pas énormément.
On rentre dans l'été.
Voilà. Oui, parce que c'était un peu perturbé ces derniers temps.
Non, mais je veux dire doucement.
Ah, doucement. Patrick Mulan, notre expert jardin, sans doute le meilleur expert jardin de France qui... chaque samedi est à nos côtés entre 6h et 7h pour répondre à vos questions jardin. N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler avec tout à l'heure les coups de cœur de Patrick, les parfums des plantes et les plantes parfumées.
Oui, en ce moment
ça c'est bien.
C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir des senteurs dans le jardin, c'est quelque chose en plus. Bon, c'est vrai que le fait d'avoir parlé de la lavande la semaine dernière, ça m'a donné envie de continuer, parce que bon, c'est vraiment la plante à parfum du moment. Bon, les roses, le jasmin, etc., il y a beaucoup de choses, mais c'est bien.
Faire un petit parcours olfactif comme voilà. Ça dans le jardin, c'est
mais
sympa.
Mais on expliquera aussi pourquoi les plantes sont parfumées, parce que c'est pas pour nous faire plaisir.
Non, c'est pour faire plaisir aux insectes, peut-être.
Et pas que.
Bon, on verra tout à l'heure.
Et pas que.
On retrouvera aussi votre conseil pour bien planter les iris. Et je vous le disais, vos questions en priorité au 32-16, l'appli RMC Direct Studio. C'est parti pour ce week-end des experts. 6h10, merci d'être là. Et on attaque ce week-end des experts avec Mylène.
Oui, bonjour.
Ah, pardon. C'est Marilène et pas Mylène. Bonjour Marilène.
Bonjour.
Excusez-moi, j'ai un petit peu saboté votre prénom, Marilène.
Oh, pas de souci.
Vous nous appelez des Landes ?
Oui.
Parfait, tout va bien.
Alors, ma question c'était par rapport, j'ai un yucca, qu'on a acheté tout récemment, et on se demandait où le positionner exactement dans le jardin, et pour l'instant on l'a mis en pot, mais il a l'air de pas bien vivre l'expérience. Et voilà, donc je voulais savoir si on pouvait essayer de le garder en pot, parce que là où on l'a posé, ce serait pas mal, ou sinon qu'il était préférable de le mettre en terre.
Alors j'ai vu aux photos, manifestement, il va pas bien, puisque en fait, toute la partie, on va dire même pratiquement la moitié du feuillage du bas, est toute desséchée. Alors... ma question est, parce que il n'y a pas que moi qui répond, il y a aussi, je pose des questions. Dans quoi vous l'avez planté ? C'est quoi le substrat dans lequel vous l'avez mis ?
On a laissé le pot lors de l'acquisition. On l'a juste placé dans un pot en terre. parce que là, on voulait juste
Vous l'avez pas dépoté?
Non.
Ben, ça sert à rien, alors, d'avoir fait ça.
Oui, mais au départ, c'était juste pour savoir au niveau esthétique où est-ce qu'on voulait le placer, et pour que ce soit pratique par rapport à la tonte, etc.
Alors, je pense que votre Yuka, il a crevé de soif. J'allais dire l'inverse, parce que quand j'ai vu le pot, je me suis dit, ils m'ont mis ça dans du terreau, ils ont oublié de faire du drainage, et la plante, elle a été trop arrosée. Parce que ce qui est terrible dans le domaine végétal, c'est que trop d'eau ou pas assez d'eau, globalement, ça fait le même résultat. Le pas assez d'eau, c'est moins grave pour un yucca que le trop d'eau. Donc, ce qui va se passer, malheureusement, c'est que toute la partie basse va se dégarnir, puisque les feuilles qui sont maintenant totalement desséchées ne vont pas réapparaître comme par magie.
Oui, voilà. Ça c'est cuit, on va dire. Donc
vous allez avoir un yucca qui va avoir un tronc, et puis après, donc, il a son feuillage, et puis c'est vrai qu'il a une très belle inflorescence. Donc vous avez un yucca gloriosa, qui est une plante qui est totalement rustique, et qui doit être plantée en pleine terre.
D'accord.
Sauf que, un yucca, c'est une plante qui vit dans des zones semi-arides, et qui a besoin d'un sol extrêmement drainant. Donc, pourquoi je disais qu'il a crevé de soif? C'est parce que le fait de rester dans son conteneur... Ce que je voudrais vraiment repréciser à tout le monde, parce que c'est, je crois, une notion qui est mal perçue. Lorsque vous achetez un végétal dans une pépinière ou dans une jardinerie, et que cette plante est pour vous dans un pot, ce n'est pas un pot, c'est ce qu'on appelle un conteneur, c'est-à-dire c'est un récipient.
C'est
dans
un emballage, en quelque sorte.
Alors, pas vraiment, parce qu'on l'a cultivé quand même dedans.
Là-dedans, d'accord.
Mais on l'a cultivé pour qu'il soit vendu et qu'il soit mis, à un moment donné, dans des bonnes conditions. Et comme les plantes sont mises en production, eh bien, on essaye quand même de réduire au maximum la taille des contenants pour pouvoir, sur un mètre
avoir
carré,
un rendement plus important.
Voilà, exactement, François. Donc, ces plantes, quand vous les achetez dans ces conteneurs, bah, elles sont à l'étroit, et puis elles sont surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensibles aux agressions extérieures, à savoir un gros coup de chaud, un manque d'eau, etc. Et d'ailleurs, vous faites l'expérience, par exemple, je ne sais pas, vous achetez, on va dire en ce moment, un petit bout de dahlia dans un petit godet, si vous ne l'arrosez pas tous les jours, il est mort.
Oui.
Parce que la quantité de terre dont bénéficie la plante est infime.
Bien sûr.
Donc, la première chose que vous devez faire, et ça, encore une fois, c'est pour tout le monde, lorsque vous achetez une plante aujourd'hui, on la met systématiquement soit dans un autre pot avec plus de substrat, ou directement en pleine terre. On va revenir au yucca. Donc, ce yucca est un arbuste qui a besoin d'un sol très drainant. Donc, je ne sais pas, Marilyn, quel est le type de terre de votre jardin ?
C'est plutôt sableux.
Alors ça, c'est très très bien, vous ne pouviez pas avoir mieux. Donc vous n'allez pas forcément changer le sol. Ce n'est pas non plus la peine de mettre beaucoup de matière organique, c'est une plante qui se contente de peu, et vous pourrez éventuellement, si vous voyez qu'il a besoin d'un petit coup d'engrais un peu de temps en temps, bon, lui mettre une fois ou deux dans un mois au début du printemps, mais c'est tout, hein. c'est pas une plante gourmande. Donc le truc, c'est je le plante le plus rapidement possible, et je vais bien l'arroser. Alors, il ne faut pas le détremper, parce que, encore une fois, il va souffrir plus d'un excès que d'un manque d'eau, mais là, dans le cas présent, il en manque vraiment. Je pense que lorsque vous allez le dépoter, vous allez constater que toutes les racines tapissent le bord de la périphérie de la motte, donc il va falloir démêler un petit peu ces racines, voire en couper un peu de manière à éviter le chignon, parce que si vous le plantez tel que, les racines qui ont commencé à s'enrouler à l'intérieur du pot ne parviendront pas à s'épancher à l'intérieur du sol. Donc il faut vraiment les démêler, en couper un petit peu éventuellement, de manière à ce que la plante puisse bien s'asseoir dans le sol. Et là, on va dire, bon, vous êtes dans les Landes, vous disiez, bon, oui. Les températures ne vont pas être excessives. On va dire, vous l'arrosez deux fois par semaine, pendant toute la période estivale, de manière à ce qu'il ait les meilleures conditions. Voilà.
Ok, très bien.
Et voilà, Marilyn.
Merci beaucoup.
Bon, bah écoutez, prenez soin de votre yucca, hein, parce que vous avez vu, Patrick a failli vous engueuler. Hein. On est à deux doigts. Hein.
Non, mais c'est pour redire aussi aux personnes qui seraient dans le même cas et qui veulent acheter ce type de plante, on ne plante pas des yuccas dans du terreau. Ça pousse plutôt dans le sol de Marilène, donc à savoir un sol sableux, caillouteux, relativement pauvre.
Marilène, merci en tout cas et bonne journée.
Merci à vous.
À très bientôt. Et si, tout comme Marilène, vous voulez joindre Patrick, parce que quelque chose ne tourne pas rond dans votre jardin, dans votre terrasse, ou alors tout simplement parce que vous avez envie peut-être de vous offrir telle ou telle plante et vous aimeriez avoir les conseils avisés de Patrick, profitez-en. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, il est temps de retrouver le conseil de Miu Miu.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et on va avoir ce matin un maximum de conseils pour bien planter les iris, Patrick. Alors pour commencer peut-être, si je ne me trompe pas, les iris fleurissent courant mai. Alors pourquoi en parler maintenant ?
Eh bien parce que c'est la période idéale, enfin on va dire c'est le début de la période idéale pour planter ce qu'on appelle les iris barbus, c'est-à-dire les grands iris de jardin qui sont des plantes formidables par la richesse de leur palette de couleurs. C'est incroyable la quantité de couleurs que l'on a sur les iris. Il n'y a qu'une seule teinte, tiens, il n'y a qu'une seule couleur que l'iris n'a pas, vraiment.
Une seule couleur que l'iris n'a pas ?
Oui.
Le noir.
Eh bien, c'est pas vrai. Alors, le noir, vous avez raison, parce que le noir, la mélanine n'existe pas dans le monde végétal, mais on a des pourpres tellement foncés qui donnent l'impression d'être noir.
Tiens.
Non, ce qu'il n'a pas, c'est le rouge géranium, le vrai rouge.
Le vrai rouge, d'accord.
Il y a des tendances un peu rougeâtres, mais un iris, ce n'est pas un géranium. Voilà. Mais sinon, vous avez tout et surtout des mélanges extraordinaires. Et la période de plantation idéale va s'étendre de maintenant jusqu'à la fin septembre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que actuellement, les rhizomes, parce que l'iris, on plante donc ces espèces de grosses racines charnues qui n'en sont pas, qui sont en réalité des tiges souterraines ou superficielles qui, elles, s'enracinent.
Ouais.
Et elles ont bien grossi depuis le début du printemps, donc elles sont en pleine forme. Mmh. Et là, vous allez pouvoir planter l'iris, qu'il s'établisse bien avant l'hiver, et vous aurez dès l'année prochaine une floraison.
Ça, c'est chouette. Dans quel type de sol doit-on planter des iris, Patrick ?
Alors, ça aime bien le sol calcaire, donc c'est pas mal pour beaucoup de régions. Mais, alors c'est pas autant que le yucca, mais presque, il faut que ça soit très drainant. L'iris des jardins, parce qu'il est... on confond souvent l'iris d'eau avec le fait qu'on se dise, l'iris, ça adore l'eau. Non, il y a des iris des marais qui fleurissent jaunes.
Oui, qui sont vraiment à part.
Alors, eux, les pieds dans l'eau,
oui.
Mais les iris des jardins, les iris barbus, eux, c'est sol très, très, très drainant. Ne jamais avoir de l'eau stagnante. Alors, si vous avez un sol qui est compact, qui est argileux, eh bien, vous allez tout simplement faire une petite butte, environ 20 cm de hauteur, avec de la terre légère poreuse, et vous planterez votre rhizome en haut. C'est un peu ce que je vous conseille aussi sur les oliviers dans les régions qui ne sont pas adaptées à l'olivier.
Et là, ça marche.
Oui, parce que lorsqu'il pleut, l'eau va ruisseler le long de la butte et ne va pas se concentrer sur la racine de l'iris.
Est-ce qu'il faut prévoir une préparation spéciale ?
Alors oui, parce que l'iris ne supporte pas la présence ou la concurrence des herbes sauvages indésirables, nos fameuses mauvaises herbes de jadis, et surtout, une fois que la plantation d'iris s'est développée, extirper les herbes à l'intérieur de cet enchevêtrement de rhizome, c'est quasiment mission impossible. Donc si vous voulez une plantation d'iris avec un certain aspect esthétique, parce que on a beau dire, oui, les herbes sauvages, c'est formidable, etc. Oui. Dans la vision idéale de certains écolos, un vrai jardin, c'est quelque chose dans lequel on met en valeur les plantes que l'on y installe. Donc, on a plus envie d'avoir des iris que des liserons et des chardons. Donc, il faut que le sol soit bien nettoyé avant. Et l'idéal, ça serait que le sol ait été travaillé précédemment, que vous ayez pu déjà le bêcher, l'amender. Parce que, comme il a ces gros rhizomes, il ne faut pas de matière organique fraîche au contact direct. Donc, on ne met pas de fumier à la plantation, par exemple. En revanche, si vous l'avez mis il y a deux mois, le compost, par exemple, qui s'est déjà décomposé,
dégradé,
et là, vous pouvez installer vos iris.
Patrick, les iris, ça aime bien le soleil ou pas?
Évidemment. Ça peut vivre à l'ombre, mais ça fleurit pas dans ce cas-là. Oui, c'est pas intéressant.
C'est pas très intéressant, on est d'accord. Et à quelle distance doit-on espacer chaque plant d'iris, tiens?
Alors, en fonction de la taille des iris, dans les iris, vous avez les grands, qui font environ 1 mètre, 1,20 m. Vous avez les intermédiaires, qui vont être un peu en dessous d'un mètre, 80 centimètres, 1 mètre. Puis des nains standards, qui font, on va dire, jusqu'à 60, 70 centimètres. Puis des petits, qui font 40 centimètres. Alors les grands, eux, on va les espacer entre 35 et 50 centimètres. Alors c'est mieux de prévoir tout de suite la grande distance.
D'accord.
Parce que ça s'étale beaucoup, à cause des rhizomes. Parce qu'encore une fois, un rhizome, c'est quoi? C'est une racine qui pousse horizontalement. Donc l'iris, il va grandir. Donc, environ 50 cm les grands iris, 30-35 cm pour les iris moyens, 25-30 cm pour les nains, et puis pour les tout-petits, environ une vingtaine de centimètres. Voilà, ça c'est la distance, et surtout de planter au moins 3 rhizomes de la même variété. C'est vrai que c'est pas toujours bon marché, surtout les variétés nouvelles, etc. Mais si vous devez acheter, mettons, allez, une douzaine d'iris, il vaut mieux acheter que 4 variétés avec 3 plants de chaque variété pour obtenir une touffe qui soit suffisamment spectaculaire pour avoir un effet waouh un peu dans votre jardin. Sinon, vous avez quelques petits iris comme ça.
Ça sera moins...
Ouais, c'est moins dynamique.
D'accord. Est-ce qu'il faut enterrer le rhizome ou pas, tiens?
Alors ça, c'est le truc de base, surtout pas. Il faut absolument que la partie supérieure, donc on va dire la partie arrondie du dessus du rhizome, soit à la surface du sol, soit à l'air libre. Si vous enterrez trop le rhizome, l'iris ne fleurit pas.
Donc il faut faire attention, ne pas faire n'importe quoi.
C'est facile, mais faut vraiment faire ça en ce moment.
Est-ce qu'on doit arroser juste après la plantation, Patrick?
Oui, surtout s'il se met à faire chaud, mais pas plus d'une fois par semaine, dans tout le mois qui suit la mise en place, et puis après ça y va. S'il pleut, ben non, vous arrosez pas. C'est une plante qui résiste très 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 bien à la sécheresse.
Alors si je possède déjà une vieille plantation d'iris, qu'est-ce qu'il est possible de la remanier maintenant?
Oui, alors, on va dire que les iris, au bout de 5 ans, 6 ans, vous commencez à voir, bon, la plantation a grossi, et puis ils fleurissent moins.
D'accord.
À partir de ce moment-là, c'est le signal de la nécessité de diviser. Donc vous allez, alors là, il faut une bonne fourche.
Au bout de 5 ou 6 ans, vous dites, hein?
Oui, quand vous allez constater simplement qu'ils fleurissent moins qu'avant. Eh bien, vous allez prendre une bonne fourche bêche, et vous allez soulever toute la touffe.
D'accord.
Et vous gardez simplement les rhizomes de la périphérie qui sont les plus jeunes. Vous virez tous les autres.
Ceux qui sont au centre, on les jette.
On les jette. Parce que ce sont eux les plus vieux qui fleurissent plus.
D'accord.
Et donc, ces nouveaux, ces plus jeunes rhizomes, il suffit qu'ils aient une petite poussée de feuilles. Et chacun fait un nouvel iris que vous allez replanter aux distances que je viens de vous donner. Donc, c'est tout à fait avantageux. Généralement, quand vous achetez quelques iris, au bout de 5-6 ans, vous en avez toute une famille. Et donc, vous pouvez commencer à en mettre un petit peu partout ou en donner aux copains. Et c'est le moment de le faire de la même façon que la plantation.
Patrick, il est 6h25. On va retrouver Claire Navarro pour la météo. Et on est de retour juste après pour notre dossier de ce samedi matin. On va parler des parfums des plantes et des plantes parfumées avec Jean qui a une question justement sur la lavande, et puis on a Annie aussi qui nous dit, tiens, pour les parfums du jardin, pensez au laurier rose. J'en ai un, c'est un régal, mais tous ne sentent pas, nous dit-elle. Bon, on en parle
loin de là.
Voilà. Patrick faisait un peu la moue, là, donc attention, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre, 3216, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite pour votre jardin.
6h-7h,
votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour, un bon réveil à vous toutes et à vous tous, et merci encore une fois d'avoir choisi RMC. Vous le savez, c'est le week-end des experts, c'est le jardin, on est ensemble avec Patrick Mulan jusqu'à 7h. Et à partir de 7h, vous retrouverez la maison. Patrick, on va retrouver dans un instant les plantes parfumées, mais auparavant, pour se mettre peut-être un petit peu au goût du jour et au parfum, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots, on accueille tout de suite Jean qui est là.
Oui. Bonjour, bonjour tous les deux, merci de prendre ma question.
Bonjour Jean,
bienvenue.
Écoutez, vous m'avez donné envie dimanche de planter de la lavande.
Oui.
Vous en avez tellement bien parlé.
En plus, vous êtes à Carros, dans les Alpes-Maritimes, donc ça devrait aller.
oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut la planter encore maintenant? Et le sol, comment doit-on faire? Bien drainer?
Alors, je pense que j'avais vraiment insisté là-dessus la semaine dernière aussi, c'est que la lavande, ça pousse dans de la caillasse. Donc j'avais, si je me rappelle bien, insisté sur le fait que si on met des lavandes en pot, on ne les plante pas dans du terreau. C'est la meilleure façon de les faire crever. Donc il faut un sol qui soit sableux, plutôt légèrement calcaire, caillouteux pour être très 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 drainé. Et voilà le secret. Alors vous allez les mettre en pleine terre ou vous allez les mettre en pot ?
En pleine terre, il y a un petit carré, un petit contre un mur. Il y a un petit endroit où on n'a rien, rien mis.
Voilà, donc si la terre n'est pas vraiment sableuse, apportez du sable grossier, hein, donc avec des éléments de cailloux là-dedans, et vous mélangez avec la terre d'origine pour être certain que vous n'aurez pas d'eau stagnante. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas dans une région où on est réputé pour avoir de l'eau stagnante, normalement. Alors bien sûr, le plein soleil, c'est indispensable pour avoir une bonne floraison. Oui, vous pouvez encore en planter maintenant si vous en trouvez dans les jardineries. Je pense qu'il y en a encore un petit peu. C'est vrai qu'on est à la fin de la période de floraison, mais il doit y en avoir encore, puisque de toute façon, c'est une plante qui a un succès extraordinaire actuellement en Europe. Et voilà, il n'y a pas... Dans votre région, je ne suis pas inquiet, quoi. C'est vraiment pratiquement pas l'idéal. Oui. En fait, normalement, ça pousse un peu plus en altitude. Hein. Les lavandes poussent entre 600 et 800 mètres d'altitude, mais bon, vous n'aurez pas de problème. Alors, si vous êtes vraiment dans un climat, on va dire, de Côte d'Azur, de Riviera... Il faudra quand même les arroser, parce que vous n'avez pas forcément toujours beaucoup d'eau, et surtout, vous avez des très très fortes montées en température. Mais l'arrosage, quand vous avez une moyenne de 30 degrés dans la semaine, vous allez arroser une fois dans la semaine, ça sera suffisant.
Ah, très bien, très bien. Merci beaucoup.
En revanche, si vous les plantez maintenant, là, il faut arroser quand même tous les soirs, pendant au moins une dizaine de jours, après la plantation, que la plante elle puisse bien s'installer. Une fois qu'elle est installée, là, vous arrosez beaucoup moins.
Ah ben, écoutez, merci, vous êtes super.
Eh ben, je vous souhaite une bonne plantation.
Ben voilà, vous allez vous y mettre quand, Jean ?
Ah, on va faire ça peut-être demain ou lundi ou mardi, très rapidement.
Parfait, très bien. Ben écoutez, voilà, vous avez une sale occupation qui est prévue. Merci.
Oui. Ça me fait penser à la chanson de Sardou. Aujourd'hui, merci. Peut-être.
Ou alors demain. Ou alors
demain.
6h32 sur RMC. Allez, on va maintenant s'intéresser au parfum des plantes et aux plantes parfumées. Et c'est vrai que dans la nature, les odeurs sont partout. Et nous, les humains, on a quand même cette capacité, alors beaucoup moins évoluée et performante que les animaux, par exemple les chiens, mais on sent les odeurs, hein, Patrick. C'est quelque chose... Il y a un truc qui me fascine, c'est la mémoire olfactive, par exemple.
Oui.
Hein, fait de croiser un parfum qu'on n'a pas senti, par exemple, depuis des années, tout de suite, paf, ça remonte comme ça à l'esprit.
Il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est de savoir que notre sens humain de l'odorat est 10 000 fois plus développé que celui du goût. Et on pourrait croire l'inverse, mais c'est vrai que les odeurs, vous venez bien de le décrire, on a des mémoires olfactives, c'est-à-dire des odeurs parfois très fines, que l'on ne sait pas forcément distinguer, parce que vous allez vous dire « Ah, je me rappelle l'odeur de l'arbre de mon grand-père », mais c'est une partie.
Mais bien sûr.
Mais c'est cette odeur-là qui vous a marqué. Avec le goût, on est moins capable, alors sauf certains experts, mais par exemple de déceler exactement toutes les saveurs qu'il y a dans un plat.
Oui, c'est vrai.
C'est beaucoup plus compliqué de les détailler. En revanche, bon, c'est vrai que les chiens, eux, ont un odorat 100 fois plus développé que le nôtre, et ça, c'est assez impressionnant.
Allez, on attaque notre sujet. D'où vient le parfum d'une plante, Patrick ?
Alors, vous avez des cellules spéciales qui sécrètent ce que l'on appelle de l'huile essentielle, qui se trouve soit sur la partie supérieure du pétale, dans la fleur, ou sur des glandes qui sont à la base des feuilles, puisque vous avez aussi des feuilles qui sont parfumées. Mmh. Les étamines aussi participent à la production de parfums. Alors, si vous regardez ces pétales, par exemple, parfumés au microscope électronique, vous voyez carrément comme des gouttes. Alors c'est microscopique bien sûr, on les voit pas nous à l'œil nu, mais c'est vraiment très important. Et ces petites gouttes, bon, vont se diffuser. Et c'est ce que l'on appelle des volatiles qui font que dans l'atmosphère, dans l'air autour de la plante, vous avez cette senteur qui sont en général agréables, mais pas forcément. Il y a des plantes qui puent carrément.
Alors les feuilles aussi peuvent produire du parfum. Et comment ça marche, tiens?
Bah, vous avez, par exemple, si vous prenez les plantes aromatiques comme le thym, la lavande, le romarin, la menthe, eh bien vous avez des glandes qui, elles, ne libèrent pas le parfum comme le pétale, mais qui, dès qu'elles sont froissées, ou même parfois simplement avec un coup de vent, le basilic, par exemple.
C'est
le basilic sous... Faites un thèse. Vous prenez un pot de basilic, vous soufflez dessus. Vous allez voir,
vous allez avoir des remontées comme ça d'arômes.
Se dégager parce que ce sont des microscopiques petites gouttelettes qui vont se dégager. Et vous avez des feuilles, par exemple, chez certains pélargoniums. Alors, vous savez, par exemple, que le parfum de rose que l'on a souvent dans les savons, les choses comme ça, c'est pas fait avec des roses. C'est fait avec un pélargonium qui, lui, a vraiment cette odeur de rose et qui, donc, donne ce parfum qui lui sert, lui, à se protéger du rayonnement solaire.
De quoi se compose le parfum d'une plante, Patrick ?
Alors, ce sont un ensemble de substances chimiques qui sont très, 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 très complexes, qui sont des molécules qu'on appelle des terpènes. Alors, notre ami Christian Ricca, il va être très, très intéressé par ça, parce que c'est des choses dont il parle aussi, lui, au niveau des antioxydants notamment, mais les phényls par exemple, bon, l'éthanol, les cétones, des acides gras, tout ça sont des éléments qui rentrent dans la composition des parfums. Et pour vous donner une idée de la complexité, on n'a toujours pas réussi à faire exactement de façon synthétique un parfum de rose, alors qu'on a déjà découvert plus de 400 composants dans l'huile essentielle de rose. Donc c'est complètement d'une subtilité absolument extraordinaire. Donc c'est surtout les monoterpènes, qu'on appelle le géranium, le citronellol, le nérol, qui sont les compositions les plus puissantes et qui sont à la fois intenses, mais ils sont fugaces. Donc c'est ce qu'on appelle la note de tête. C'est-à-dire que quand vous prenez une fleur et puis vous mettez votre nez dessus, tout d'un coup, boum, vous avez une bouffée et vous dites, tiens, ça sent ça. Mais si vous faites l'effort intellectuel de laisser passer cette odeur-là, vous savez, c'est un peu comme la dégustation du vin. Vous prenez déjà dans la bouche quelque chose et puis tout d'un coup, ça va changer au fur et à mesure que vous allez faire passer à l'intérieur de la bouche. Et bien là, dans le nez, c'est la même chose. Paf ! Vous avez cette odeur peut-être, et puis petit à petit, vous avez des choses beaucoup plus subtiles.
Il y a le deuxième effet plus subtil.
Et donc ça vient souvent d'autres substances, et notamment les polyéthanols.
Alors pourquoi certaines plantes sont-elles parfumées et pas d'autres ?
Alors, les plantes à parfum, comme vous le disiez tout à l'heure François, elles sont, alors quand je parle des plantes à parfum, on va dire des plantes à fleurs parfumées. Leur fonction, c'est essentiellement l'attraction des insectes pollinisateurs. Mais, la plupart du temps, et notamment les plantes qui fabriquent du parfum sur le feuillage, comme toutes les aromatiques dont je vous parlais précédemment, celles-là, elles ont ces huiles essentielles pour faire une défense contre les bioagresseurs. C'est-à-dire que, par exemple, l'essence de menthe est totalement peu attractive pour beaucoup d'insectes. D'où l'intérêt que l'on a aujourd'hui dans les jardins, où on n'a plus de fonction vraiment de soins directs, puisque les produits de traitement, on les a plus, de faire ce que l'on appelle le compagnonnage, en mélangeant des plantes d'odeurs différentes, vous allez entraîner ce qu'on appelle une confusion olfactive chez les prédateurs. Par exemple, il est tout à fait intéressant d'associer dans le potager des carottes avec des tomates ou des poireaux avec des choux. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'odeur, par exemple, de poireaux, qui est une odeur aliacée, elle va entraîner, en fait, une sorte de confusion par rapport à ce qu'on appelle la pyrite du chou. Vous savez, ce petit papillon blanc à points noirs dont les larves dévorent complètement les feuilles de chou. Eh bien, lui, il cherche le chou, c'est-à-dire l'odeur de chou. Ça a une odeur, hein, le chou. Mais si vous mettez des poireaux ou de l'ail ou de l'oignon à côté...
Ça le perturbe.
Bah, ça le perturbe. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas quand même arriver à le trouver.
C'est comme si on brouillait son radar, quoi. Mais c'est ça,
exactement ça, voilà. Il est un peu dans le brouillard, voilà. Il sait plus trop.
Il sait plus trop.
Et du coup, vous réduisez les risques d'infestation. Et les plantes, elles, en sécrétant ces produits-là, eh bien, se protègent elles-mêmes aussi de ces insectes qui sont un petit peu prédateurs.
Est-ce que les couleurs des fleurs jouent un rôle sur le parfum, tiens?
Alors, c'est pas la couleur elle-même qui joue, mais on s'est rendu compte que les couleurs les plus parfumées sont les blancs. Hein. Vous avez pratiquement une fleur blanche sur deux qui est parfumée. Après, vous avez les rouges, les roses, les jaunes. Alors, les bleus et les oranges,
un peu
c'est
moins.
Rarement parfumé. Mmh,
d'accord.
Rarement.
Tiens.
Sauf la lavande,
oui.
qui est bleu violacé.
Oui, qui est bleu violacé.
Mais, voilà.
Elles sont bon.
Mais bon, souvent les blanches. Hein. D'une manière générale, regardez, les jasmins sont blancs, les lys parfumés sont blancs, etc.
Il y a un truc étonnant aussi, c'est que en général, les fleurs parfumées ont une très courte durée de vie, Patrick. On sait pourquoi?
Oui, parce qu'en fait, l'essence florale, elle n'est qu'attractive. Donc, une fois que la pollinisation a été faite...
Ça ne sert plus à rien.
Alors, non seulement ça ne sert plus à rien, mais il ne faut plus attirer encore d'autres pollinisateurs pour ne pas avoir une sur-fécondation. Quand vous faites de l'hybridation de roses, par exemple, vous allez prendre du pollen d'une rose, mettre sur le pistil de l'autre. Ce que l'on fait toujours, c'est qu'on met un petit chapeau en papier dessus pour qu'il n'y ait pas d'autres insectes qui viennent, parce que là, on sait au moins ce qu'on a fait comme croisement. Bon, ben dans la nature, la plante, c'est la même chose. Une fois qu'elle a été fécondée, elle se dit, c'est pas la peine d'essayer de continuer. Il y a que chez les humains que l'accouplement est un jeu. Dans la nature, c'est une fonction reproductive.
Oui, bien sûr. Alors, Patrick, on va maintenant faire un petit tour du propriétaire. Quelles sont les fleurs les plus parfumées en cette saison? Peut-être la rose pour commencer,
alors,
non?
Bien sûr. Alors, attention, toutes les roses ne le sont pas. On a les meilleurs parfums, enfin du moins, pendant longtemps, les meilleurs parfums étaient sur les roses anciennes. Bon, par exemple, les fameuses cuisses de nymphes, cardinal de Richelieu, il y a même à parfum de la Haye, par exemple. Toutes ces roses-là, comme aussi Honorine de Brabant, Président de 16, Yolande d'Aragon, Salé, tout ça, ce sont des roses classiques qui ont un défaut énorme, c'est qu'elles sont très, très, très sensibles aux maladies. Là, le parfum n'est pas du tout protecteur des maladies, il est uniquement attractif pour les pollinisateurs. En revanche, ces roses ont un parfum extraordinaire.
Ouais.
Et elles ont un autre défaut, pour la plupart de celles que je viens de citer, elles ne sont pas remontantes, c'est-à-dire qu'elles ont fini de fleurir maintenant. Mmh. Elles ne vont pas recommencer. Alors, dans les nouvelles, enfin, entre guillemets, dans les variétés récentes, il y a quand même des variétés qui sont formidablement parfumées. Jardin de Bagatelle, vous avez Mélodie parfumée, ça veut tout, Nuage parfumé. Mmh. Alors, le fameux Papamayan, qui est pareil, aussi une rose extrêmement sensible aux maladies. D'ailleurs, j'ai l'impression que plus une rose est parfumée, et moins elle est résistante aux maladies.
Ah oui.
Ouais, généralement. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai 100% raison, mais il y a Red Parfum, y a, voilà des roses qui sont Bolshoi, voilà, des roses qui sont extraordinairement bien parfumées. Et moi, je vous conseille, hein, quand on achète un rosier, vaut mieux avoir été dans une roseraie ou chez le producteur avant pour
sentir un petit peu la rose qu'on aura.
Faire vraiment le plaisir. Bon, la lavande, on ne va pas revenir dessus, on
en
a parlé la semaine dernière.
C'est le symbole de la Provence, hein.
Oui, alors, il faut dire quand même que la lavande, dans le jardin, elle est beaucoup plus intéressante qu'en production, puisque là, en ce moment, là, si vous allez sur le plateau de Valensol ce week-end, c'est la pleine récolte. Hein.
Oui.
Donc, ça veut dire que dans 8-10 jours, il n'y a plus rien. En revanche, au jardin, comme vous n'allez pas vous récolter, jusqu'en mois de septembre, vous avez encore les épis, et il suffit de les frotter un peu, et ça sent remarquablement bon. Donc, ça, c'est intéressant. Le réséda.
Et les abeilles aussi se régalent, là. Hein.
Ah, tout à fait. Tiens, puisqu'on parle de ça, les abeilles, je les ai vues butiner, mais comme des folles furieuses, des fusains du Japon. Alors, le fusain du Japon, c'est plutôt considéré comme un arbuste un peu de haie, avec des feuilles coriaces, et on n'imagine pas les fleurs. Parce que c'est tout petit. Et
les fleurs sont extrêmement attractives, de même que le lierre, par exemple, le lierre qui sent rien, oui, oui. Parce que ça aussi
attire les abeilles quand même. C'est fou ça.
C'est pas forcément toujours le parfum. Mmh. La couleur peut attirer, puis aussi simplement la présence de nectar. Alors le réséda, qui est une plante qui est moche comme tout, mais alors qui sent magnifiquement bon. Les lys blancs qu'on a en ce moment, bien entendu, les œillets, les chèvrefeuilles, le jasmin,
voilà. etc. Voilà, c'était quelques exemples de plantes qui sentent bon. Patrick, 7h moins le quart, on revient dans un instant. Jean-Pierre sera avec nous, il va nous parler de ses plants de tomates. Et on retrouvera aussi la météo du jardinier. 32-16, si vous voulez nous joindre. Jean-Pierre sera là dans un instant, mais tout comme Jean-Pierre, vous pouvez joindre notre expert jardin. Profitez-en, en plus c'est vraiment la saison. Hein. 32-16, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. A tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, un petit peu plus de 7h moins le quart, c'était RMC, le week-end des experts. Christian PC nous rejoint tout à l'heure entre 7 et 8. On va vous donner quelques conseils pour bien, comment dirais-je, entretenir sa climatisation. Bientôt, on va la solliciter, cette clim. Est-ce qu'il y a des gestes à avoir pour bien l'entretenir? Ça sera l'un des sujets qu'on évoquera tout à l'heure. Mais d'ici là, vous le savez, c'est le jardin. Patrick Mulan. Dans un instant, la météo du jardinier. Patrick, hein, vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France. On va voir ce que ça donne. Mais auparavant, Jean-Pierre nous attend.
Allô ?
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour messieurs.
Je vous écoute.
Voilà. Donc, ma question concerne les plantes de tomates et concernant en particulier des gourmands. C'est ce qu'on appelle les gourmands.
Oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les gourmands. Il faut les laisser, il faut les enlever, suivant les variétés de tomates. Moi, ce que je voulais savoir, j'ai quatre variétés de tomates, des romas, des cœurs de bœuf, des pyros et des super secs. Mmh. Pyros et super secs, ce sont des hybrides. Faut-il les enlever? Et si il faut les enlever, on les enlève à la main, disons en cassant le gourmand, ou faut-il le couper? Enfin bon, c'est la question un peu que.
C'est
que
pas aussi compliqué que tout ça, mon cher Jean-Pierre.
Bon, oui.
Déjà, alors, qu'est-ce que c'est que le gourmand, tiens?
Alors voilà la bonne question de François. C'est quoi le gourmand? Ce sont les pousses assez vigoureuses et qui portent pas de fleurs ou peu de fleurs, qui poussent latéralement sur les plants de tomates. Donc ça. On les enlève. Pourquoi? Parce qu'il faut concentrer toute la sève sur
la
production des fruits. Il faut savoir que la proportion entre la production d'une feuille et la production d'un fruit, c'est un facteur de 1 à 100 au niveau de la demande énergétique. Hein, puisque vous avez à peu près un multiplicateur de 10 pour avoir une fleur et un autre multiplicateur de 10 pour avoir un fruit. Donc plus vous allez garder, on va dire, de la végétation abondante, et moins vous risquez d'avoir une production qui soit satisfaisante. La deuxième raison pour laquelle on retire les gourmands, c'est qu'ils créent un aspect totalement buissonnant de la tomate qui gêne la pénétration du soleil au niveau des fruits. Ouais. Et donc, vous risquez.
Je sais si la tomate a besoin de soleil pour mûrir.
Alors, pour mûrir et puis surtout pour se charger de sucre, pour se charger de saveurs et donc l'exposition au soleil. Ou du moins à la lumière, est extrêmement importante. Donc, après, est-ce qu'il faut les couper à la main ou est-ce qu'il faut les couper avec des ciseaux, un sécateur ou ce que vous voulez? Peu importe. Sauf que, généralement, on peut casser facilement à la main un tout jeune gourmand, et ça, c'est l'idéal, c'est-à-dire c'est au départ, lorsqu'il commence à se former sur le plan, sur le côté, on va le couper et là on le casse avec les doigts. En revanche, quand il a déjà atteint la taille, enfin le diamètre d'un doigt par exemple, là vous êtes obligé de passer au ciseau parce que si vous le cassez, vous allez faire une énorme blessure au niveau de l'endroit où il a pris naissance et à ce moment-là vous allez abîmer la plante. Donc voilà. Alors maintenant vous dites effectivement avec raison que certains disent il faut pas les enlever, etc. Mais ça, ça dépend des tomates. Les tomates que vous m'avez citées, les variétés que vous cultivez et que j'ai vues sur la photo dans la serre, d'ailleurs, c'est très bien tenu à votre culture. Il n'y a pas non plus une prolifération de gourmands invraisemblable. J'en ai plus dans mon jardin.
Vous savez pourquoi?
Oui.
Parce que on a un dilemme avec mon épouse. Mon épouse veut que je les laisse. et moi que, enfin moi j'étais parti pour les enlever et j'avais commencé déjà à tailler un peu ces gourmands, donc c'est pour ça qu'on en rencontre aussi.
Non mais donc du coup c'est plutôt pas mal. Bon, alors en revanche ceux qu'on ne taille pas, c'est essentiellement les tomates cerises. Et vous, comme vous n'avez que des tomates à gros fruits dans celles que vous m'avez citées, vous devez le faire. Voilà. Parce que les tomates cerises, elles font naturellement un buisson comme ça. Il suffit donc de les palisser sur une armature pour pouvoir avoir une prolifération de fruits.
D'accord.
Voilà. Donc, écoutez, bonne tomate, parce que ça a l'air d'être bien parti. Donc, enlevez les derniers gourmands.
Pourrais-je avoir une autre question, s'il vous plaît? On dit, pour les protéger des pucerons, mettre des œillets d'Inde au pied des tomates, ça peut apporter, disons, les pucerons iront plus sur les œillets d'Inde que sur les plantes tomates.
Non, alors ça c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que la pratique, oui, mais c'est pas la raison. Les œillets d'Inde n'auront pas de pucerons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils produisent une odeur, là, on vient de parler des plantes parfumées, là, une odeur qui est extrêmement répulsive par rapport aux pucerons. Et donc là, on peut avoir un effet. Toutefois, il faudrait mieux mettre des roses d'Inde. Pour quelle raison ?
C'est qu'un œillet d'Inde ?
Ben oui, parce que un œillet d'Inde, ça mesure quoi ? 20 cm ? 20-25 cm, et une tomate, ça fait 1 mètre, 1 mètre 20. Une rose d'Inde, vous avez des roses d'Inde qui font dans les 80 cm de haut, et là, vous allez avoir une proportion entre la plante protectrice et la tomate qui va être bien supérieure. Parce que, n'oubliez pas que les pucerons, ça attaque toujours sur les jeunes pousses, donc d'extrémité. Et la distance qu'il va y avoir entre un pied d'œillet d'Inde de 20 cm et l'extrémité de la tomate à 1 mètre est trop grande pour que l'efficacité répulsive en fait soit réelle. Après, c'est quand même à limiter au niveau de l'efficacité. J'ai senti dans votre question qu'il y avait un petit bémol, il faut le garder parce que c'est pas du 100% efficace, mais ça contribue effectivement à avoir un effet.
Merci Jean-Pierre. Le 32-16, hein, tout comme Jean-Pierre, vous voulez joindre Patrick Miolan. Alors pour ce samedi matin, ça va être un peu juste, hein, puisque dans quelques instants, on va retrouver la météo et les infos. Mais si, pour la semaine prochaine, vous avez une question pour notre expert jardin, le 32-16, et via l'appli RMC Direct Studio, vous pouvez nous poser votre question avec votre numéro de téléphone. Patrick, on jette un œil sur la météo du jardinier.
Oui, la météo du jardinier. Tiens, vous savez qu'en ce moment, la Terre est la plus éloignée du Soleil. On a la plus grande distance, c'est pour ça aussi qu'on a une insolation importante.
Ah oui.
En fait, l'angle est fort et on appelle ça l'aphélie.
L'aphélie.
Voilà.
D'accord.
C'est important à savoir pour la météo, ça joue et donc on va être dans une météo relativement stable, on va dire.
Vous croyez plus en ça que la Lune, hein, j'ai l'impression.
C'est-à-dire que ça, c'est une réalité scientifique. L'influence de la Lune sur les cultures, c'est un peu...
C'est autre chose.
C'est un peu moyen, quoi.
Alors, la météo.
Donc, la météo, elle est à peu près comme on vient de vivre la semaine, donc à savoir des matinées relativement fraîches, surtout sur la moitié nord de la France. Des vents qui vont quand même passer un petit peu à l'ouest, ouest-sud-ouest, et on aura des températures de plus en plus estivales, mais qui vont pas... Sauf dans la région Avignon, Aix-en-Provence, tout ça, où il fait toujours très chaud, on aura des moyennes autour de 24-25 degrés. Donc on va avoir des conditions assez favorables pour le jardinage. Il ne faut pas s'attendre en revanche à avoir vraiment de la pluie, sauf peut-être du côté de jeudi ou mercredi sur quelques gouttes sur les Alpes. Avec en revanche une tendance qui va aller vers l'orage en fin de semaine et ça va commencer vers l'Aquitaine et les Pyrénées, mais tout le reste de la France sera au sec. Donc au jardin, on va
falloir arroser là. Hein.
Voilà, on peut aussi ce dimanche, par exemple demain, il fera très très beau, donc vous pouvez faire une journée barbecue, ça peut le faire, par exemple. Et puis sinon, c'est le moment de faire très très attention sur le désherbage parce que comme il fait pas extrêmement chaud, eh bien il y a avec ces amplitudes thermiques que l'on a en ce moment, vous avez de la rosée qui se forme. Et donc, les mauvaises herbes, elles y vont. Hein. Donc, la binette, elle est encore très, très intéressante, très importante. Et puis, si les maladies ne sont pas encore vraiment développées sur certaines plantes, comme les arbres fruitiers, au niveau de la tavelure ou les rosées, le rosé au niveau du marsonnier, je peux vous dire, là, il y en a quand même pas mal. Dans la plupart des régions, là, il y en a. Donc, c'est trop tard là, pour la bouillie bordelaise. En revanche, le blanc, l'oïdium, ça, vous pouvez au soufre, en dessous de 25 degrés, traiter, même si l'oïdium est là, parce que c'est superficiel. Et donc, le soufre qui est autorisé
en culture biologique, eh bien, vous pouvez avoir un bon effet.
Parfait. Bon, Patrick, avant de se dire au revoir, vos coups de cœur de ce samedi matin.
Alors, j'en ai plusieurs. Déjà, une initiative originale qui s'appelle le potager d'à côté, qui est partie du constat que le potager était de plus en plus un phénomène social en France, et donc que l'on produisait beaucoup de légumes. On en produit d'ailleurs tellement qu'à peu près une tomate sur deux qui est consommée dans ce pays vient d'un jardin privé, mais que souvent il y a un surplus de production. Mmh. Alors pourquoi jeter tout ça? Pourquoi ne pas l'utiliser? Et donc en fait ils ont créé un système pour que tout le monde soit gagnant. Donc des propriétaires de jardins peuvent éviter le gaspillage et même se faire 3-4 sous. Et puis les gens qui cherchent des légumes, eh bien, ils peuvent trouver des légumes qui ont été proposés dans les jardins. Donc ça s'appelle le potager d'à côté, c'est sur internet, vous pouvez y aller. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui ouvre la 4e édition de Jardin Ouvert, c'est-à-dire que c'est une action qui d'habitude se fait au mois d'octobre, mais là ils ont décidé de le faire pendant tout l'été, c'est jusqu'au 30 août, vous aurez pratiquement tous les jardins d'Île-de-France, là c'est sur l'Île-de-France, mmh. puisque en fait c'est la région en fait qui a organisé ça, pour aller voir des jardins, des manifestations, des actions, etc. dans les jardins.
Parfait, Patrick, on se retrouve la semaine prochaine. 6h-7h pour se mettre au vert sur RMC, ce rendez-vous unique, hein, une heure de jardin avec notre expert Patrick Mulan et vos questions au 32-16. On se retrouve la semaine prochaine, Patrick.
Voilà, j'embrasse les jardinières, ma petite perle, et je dis salut Christian.
Salut Mignou.
Monsieur PC, on va un peu nettoyer la clim, va.
Bah, on va d'abord nettoyer la clim et puis après on va chercher une entreprise.
Oui. Hein? Ben oui, c'est ça. Ça va être comment bien choisir son entreprise pour rénover sa maison.
Oui, tout à fait.
Et puis, bien sûr, vos questions, hein, bricolage, maison déco, vous le savez. Une heure avec Christian PC, notre expert maison. C'est dans un instant, c'est sur RMC, c'est après la météo et les infos, donc vous restez là. À tout de suite.